bendita venue. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, tenons bien cette grâce. Par elle, servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Ce matin, nous avons la grâce de clôturer, dans un premier temps, parce qu'on pourra y revenir plus tard, Dieu voulant, une série de 4 messages consacrés à la sainteté. Et le thème de ce matin, la vie de sainteté, une question de privilège, une affaire de cœur. La vie de sainteté, une question de privilège, une affaire de quoi ? De cœur. Au cours de ces 3 dimanches qui viennent de précéder, il y a un fait réel qui a été souligné par différents prédicateurs qui ont défilé devant nous, ceux qui ont dit que la sanctification n'est pas une option à prendre ou à laisser, mais c'est plutôt une obligation, une exigence de taille. Pourquoi de taille? Parce que les textes que nous venons de lire tout à l'heure nous montrent que Dieu jugera son peuple. Très souvent, nous pensons que Dieu jugera seulement les païens. Et nous devons savoir intérioriser cette vérité biblique que Dieu jugera son peuple. Où nous sommes dans la foi, selon les Écritures, alors nous cherchons à vivre une vie régulièrement sanctifiée. Où nous ne sommes pas dans la foi, alors nous demeurons dans le péché. C'est l'une ou l'autre. Mais parce que nous sommes dans la foi, nous sommes donc obligés, nous sommes contraints à vivre, à laisser nos vies être entraînées dans la dynamique de la sanctification. Je vais commencer par faire une remarque avant de parler de cette sainteté, une affaire de cœur, une question de privilège. Nous appartenons bien aimés à une église qui se veut rayonnante. Et je suis tout à fait convaincu qu'à Goma Ouest, il n'y a personne qui peut se plaindre. En termes de multiples occasions que le Seigneur nous donne, toi et moi, pour que nous puissions entendre Dieu régulièrement nous interpeller, régulièrement nous nourrir spirituellement pour nous entraîner dans une dynamique d'une vie fondamentalement rayonnante. En parole et en quoi? Et en acte. Des campagnes d'évangélisation sont organisés. Des sermons le dimanche sont aussi là. Des séminaires pendant la semaine, on n'en manque pas. Des méditations en cellule, il y en a. Des études bibliques, nous tous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour disséquer ce que la parole de Dieu veut nous dire. Ces occasions sont aussi là. Et pour les jeunes, des conventions, des camps bibliques. Et pour les couples, des séminaires régulièrement organisés. Dans quel but? C'est pour améliorer chacun d'entre nous, lui donner l'occasion d'améliorer sa manière de vivre sa foi où que le Seigneur l'appelle. Mais la question que nous devons chacun se poser, en toute honnêteté, toutes ces multiples occasions que le Seigneur m'a données, ça produit beaucoup ou ça produit peu? Si je m'examine moi-même, est-ce que je peux constater que ces différentes occasions, ces opportunités que le Seigneur m'a offertes, ont-elles produit beaucoup, ont-elles produit peu? Nous parlons de consécration, nous parlons d'engagement conséquent vis-à-vis du Seigneur. Nous parlons de renoncement à ceci ou à cela. Des réveils spirituels, nous en parlons. Des cœurs qui brûlent avec des intentions de faire ce que le Seigneur veut, ce qu'il attend de moi. Mais combien parmi nous réussissent à décoller? Le problème c'est quoi? Le problème c'est que l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre notre foi, très souvent, ne favorise pas une croissance spirituelle. Le niveau général de la spiritualité est en train de baisser. Il est davantage plus difficile de constater, de voir des jeunes garçons, des jeunes filles, peut-être même des adultes soucieux à être élevé à un standard d'une vie dominée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les Pentecôtes diraient, Wana, Afaini, Wana, Tusaïdi, Wana, Tusaïdi. Bien aimé, si nous lisons le psaume 63, le verset 2, il est dit dans ce psaume, Dieu, c'est toi mon Dieu, dès l'aube, je te désire, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre desséchée,
épuisé, sans eau. Il dit, mon cœur, mon âme a soif. La marque distinctive d'un disciple, c'est la fin de Dieu.
C'est la fin de Dieu.
Cette manière de cultiver la fin de Dieu vivant, c'est une marque caractéristique qui devrait être la nôtre. L'objectif de notre vie ne devrait pas être de plaire aux hommes, mais plaire à qui? Plaire au Seigneur. Le problème, c'est que nous nous sentons faibles. Et quand nous nous sentons faibles, nous croyons que c'est fini pour nous. Non, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se sentent faibles. Alléluia. Il a besoin des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui se sentent faibles, mais qui entretiennent, pour amortir cette faiblesse, qui entretiennent dans leur cœur la soif du Dieu vivant. Alléluia. Mais Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes forts, qui se croient forts, mais qui n'ont pas cette soif de Dieu vivant. Amen. Si vraiment nous avons des cœurs assoiffés de Dieu, c'est par là que Dieu va commencer à agir. Quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos inconséquences, quelles que soient nos limites, avoir un cœur vraiment dévoué au Seigneur lui-même. Quelqu'un a dit, je suis prêt à servir Dieu, mais dès que j'aurai trouvé la place qui me réserve à son service, je pourrai être satisfait. Pourtant, Dieu ne tient pas à nous voir notre place à son service, mais plutôt, il veut voir quelle place il a dans notre cœur. Alléluia. Quelle place il a dans notre cœur. Parce que la vie de sainteté, la vie des disciples, c'est une vie, c'est une affaire de quoi? De cœur. C'est la sincérité de cœur. Si nous sommes seulement sincères en venant à Dieu en toute sincérité, en reconnaissant en toute sincérité ce que nous sommes devant Dieu, nous sommes en train de commencer à faire ce que Dieu attend de nous. Dieu s'approche, dit la parole de Dieu, de ceux qui ont le cœur brisé. Et il fait grâce à ceux qui sont humbles devant lui. Bien-aimés, c'est ça que nous rechercherons, nous devrions rechercher. Parce que l'œuvre suprême que le Seigneur veut entreprendre dans ta vie et dans ma vie, c'est de produire, c'est de reproduire la ressemblance du Christ au-dedans de mon cœur. Alors la sainteté, une question de cœur. Sincère. Mais aussi une question de privilège. Il y a des jeunes gens aujourd'hui et d'autres personnes qui posent la question de savoir pourquoi certaines personnes, leur vie sont vraiment révolutionnaires et la mienne n'est pas révolutionnaire. Comme la vie de terre. Comment parvenir comme les autres à avoir une vie véritablement révolutionnaire? Il y a certaines personnes qui ont eu peut-être l'occasion d'accueillir Jésus dans leur vie. Ils ont dit l'avoir accueilli, mais ils l'ont laissé comme on peut ouvrir la porte et le laisser au seuil de la porte. Vous connaissez le seuil de la porte? C'est où? C'est dedans ou derrière? C'est derrière, juste au début de la porte. Il reste là au seuil de la porte, mais on ne le laisse pas pénétrer. Ou si on les laisse pénétrer, ça peut aussi arriver, on ne lui remet pas tout le cœur pour qu'il puisse prendre le contrôle de toute ma vie. Parce qu'il y a donc certains aspects de ma vie que je prends le contrôle et je dis, à ça il peut toucher, à ça il ne peut pas toucher, ça il peut changer, ça il ne peut pas changer. Peut-être il changera plus tard. À ce moment-là, va-t-il opérer? Il n'opérera pas. Alors si nous venons au texte que nous avons lu dans Actes des Apôtres, disons à Hébreux chapitre 10, le verset 19 dit, nous avons ainsi, frères, une pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante, là inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire par son humanité. Nous avons un prêtre éminent établi sur la maison de Dieu, le verset 22, il est très important. Approchons-nous avec quoi? Approchons-nous avec un cœur sincère. et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de toute faute, de toute faute de conscience, des corps lavés d'une eau pure, ainsi de suite. Il y a donc prioritairement les privilèges que nous avons reçus. Il ne sera pas possible de s'approcher régulièrement avec un cœur sincère si nous ne sommes pas en mesure de comprendre qu'il y a des privilèges. Quels sont ces privilèges? En Jésus-Christ, il faut que je le souligne, les réalités terrestres et les réalités spirituelles se sont rencontrées. En français facile, on dirait, en Jésus-Christ, le ciel et la terre se sont touchés. Parce que Dieu est là-haut dans le ciel, n'est-ce pas? Et Jésus est venu du ciel pour venir où? Sur la terre. Et si donc Jésus vient habiter dans ma vie, ça signifie que le ciel et la terre se sont fait quoi?
Se sont touchés.
Alléluia! Le ciel et la terre se sont touchés. Il y a un verset important dans Colossiens chapitre 2, verset 9 qui dit que nous avons tout pleinement en Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de quoi? De la divinité. Nous avons tout pleinement en Christ, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça signifie que Dieu, que nous cherchons au ciel, est venu habiter dans nos cœurs. Il a fait de nos cœurs sa propre habitation. Et parce qu'il a fait de nos cœurs sa propre habitation, tout change. Alléluia. Tout change. Les cieux et la terre se sont touchés. Mais très souvent, nous ne prenons pas conscience de cette réalité, de ces grands privilèges que nous avons reçus. Que le ciel vienne habiter dans nos cœurs. C'est un petit cœur, mais c'est là que Dieu a choisi d'habiter. Alors ce cœur-là ne t'appartient plus, ne m'appartient plus. Il appartient à qui? Au maître qui l'a fait. Il veut opérer à travers ce cœur-là. Notre vie bien-aimée n'atteindra son plein épanouissement qu'en Christ lui seul. Ce n'est pas Christ pour plus notre mari et notre femme. Ce n'est pas Christ plus nos amis. Ce n'est pas Christ plus le mariage. Il n'est pas question de Christ pour notre service pour lui. Il n'est pas question de Christ pour une bonne réputation, une bonne position. Il n'est pas question de Christ pour plus nos diplômes ou alors les conversions. Il est question de trouver notre accomplissement. En qui? En Christ. Parce qu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que si nous voulons vivre une vie réellement épanouie, laissons le Christ opérer. Amen. Laissons le Christ opérer. Ni un mari, ni une femme, ni un bon travail, ni une bonne position sociale ne peuvent satisfaire les aspirations profondes de notre cœur. Parce que notre cœur est fait à la dimension de Dieu. Il y a un passage biblique qui dit « Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui est à la dimension de Dieu. » C'est-à-dire que tant que Dieu n'a pas pris place dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, dans le cœur d'un garçon, dans le cœur d'une fille, même dans le cœur d'un enfant, il y a un problème. C'est ça qui fait pour certains, c'est possible de vivre une vie épanouie en Christ, mais pour d'autres, c'est difficile à faire. Parce que quelle est la place que le Christ trouve dans ton cœur? Nous avons lu Esaïe chapitre 35, verset 8, qui disait « Il y aura là une route. » C'est notre sœur Noëlla qui l'a lu. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appelle la voie sainte. Ni les purs, ni passera. Et cette prophétie d'Esaïe 35, verset 8, s'accomplit en Jésus-Christ, qui crée un chemin nouveau qui crée une route nouvelle. Selon ce qu'Ésaïe, chapitre, disons, Hébreux chapitre 10, dit au verset 20, nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée au travers de son humanité. Lorsque Christ est venu dans le corps, il est venu pour inaugurer une nouvelle voie, pour que nous puissions être connectés aux réalités célestes. Alléluia. Ces réalités célestes font habitation dans le monde désormais, mais dans toi particulièrement, dans la mesure où tu le laisses véritablement opérer. Jésus, dit le verset 21, est le prêtre, le grand prêtre éminent. C'est notre privilège. Il est le grand prêtre éminent qui a été établi sur la maison de qui? La maison de Dieu. Jésus donc se tient à la droite du Père pour la faveur de chacun de nous. Et c'est là que je souligne que les faiblesses en soi ne sont pas un obstacle. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 4, je vous demande de lire ce passage, versets 14 à 16, et il y a donc un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement, quoi? La confession de notre foi. Nous n'avons pas en effet un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été éprouvé en tout point à notre ressemblance, mais sans faire quoi? Sans commettre de péché. Verset 16. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Miséricorde, mais aussi de trouver grâce pour être aidé en temps voulu. Tout est là. Tout est là. Parce que le Christ est assis à la droite du Père et qu'il est là comme un grand prêtre éminent avec tout le pouvoir qui lui a été donné. En fait, nous pouvons nous approcher. Nous sommes invités à nous approcher. Parce qu'au moins lui, dans sa chair, il sait ce qu'il sait que vaut de vivre la vie chrétienne sur cette terre. Il est capable de compatir. À quoi? À nos faiblesses. Il est capable de compatir à nos faiblesses, alors il nous est demandé de nous approcher en toute assurance. Parce que là, nous pouvons obtenir miséricorde, mais là aussi, nous pouvons obtenir de l'aide pour ce dont nous avons véritablement besoin. Ça, c'est une question de privilège. Mais alors, si nous avons un cœur sincère, c'est la deuxième chose que je veux dire, si nous avons un cœur sincère, nous devons vivre dans l'horizon de notre espérance. En toute sincérité, avec un cœur sincère, vivons dans l'horizon, en perspective de notre espérance. Parce que le Christ viendra chercher son Église. Il viendra prendre ce qui lui appartient, mais ceux qui recherchent à vivre dans la sanctification. Comment le faire? Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. D'ici donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, où c'est? À la droite de Dieu. Affectionnez-vous, bien-aimés, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée. En qui? Avec Christ, mais en qui? En Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous ferez quoi? Vous paraîtrez vous aussi. Voilà, bien-aimés. Notre vie, même si le monde ne nous connaît pas, tel que le texte de notre frère Jonathan a dit, même si le monde ne nous connaît pas, en tout cas, quand il paraîtra, nous paraîtrons aussi. Avec qui? Avec lui. Amen. Nous paraîtrons avec lui. Notre vie cachée, la réalité de notre nouveau statut que nous avons obtenu en Christ est cachée avec Christ, en Dieu lui-même. Alors, si c'est caché en Christ, en Dieu, qui va la lâcher? Personne. Voilà pourquoi il y a des exhortations. Dans Hébreux chapitre 10, si vraiment nous avons tout ça, il y a des exhortations à partir du verset 22. Il faut être sincère avec soi-même, mais aussi envers Dieu. Il faut libérer nos cœurs de toute faute de conscience, de toute culpabilité par la confession réelle du péché. Il faut accepter même de réparer les fautes qui ont été commises. Il y en a qui gardent une conscience chargée. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas. Parce qu'en fait, ils ne disent pas comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Dieu te laissera dans cette situation jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu dois libérer ta conscience de tout ce qui la charge. Nous avons connu un frère qui est mort. Et qui est mort pendant qu'il disait qu'il est allé prier. Certainement qu'il avait une conscience chargée, il n'a pas su se libérer de cette conscience. Et il est mort. Il est mort. Il faut faire attention à garder les choses dans le cœur. Ce cœur est fait pour Dieu. Il n'est pas fait pour garder les choses qui le chargent. Non. Il faut les libérer. Deuxième exhortation, il faut retenir fermement la profession de la foi, de notre espérance. C'est-à-dire qu'il faut affirmer, dans notre version de la TOB, il faut affirmer notre espérance sans fléchir. Sans fléchir, c'est quand même fort. C'est-à-dire, il faut tenir ferme à la confession. Quand il vous arrive de commencer à ne pas rendre témoignage de votre foi, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous n'êtes plus en mesure de dire aux autres, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, vous n'êtes plus en mesure de dire ça à vos amis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut faire attention. Il faut affirmer notre confession de foi. Troisième exhortation, toujours dans Hébreux 10, il faut veiller les uns sur les autres. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la sanctification n'est pas une œuvre isolée. C'est une œuvre à la fois individuelle, mais aussi communautaire. Nous devons tous maintenir le cap en nous excitant les uns les autres à la charité. À la charité, si tu constates un frère que son amour pour toi est en train de se refroidir, il faut l'interpeller. Si tu constates que son amour pour le Seigneur est en train de refroidir, il faut aussi l'interpeller. Il est temps, bien aimé, réveille. Malheureusement, il y en a qui croient qu'on les dérange. Oui, j'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait ici, pasteur, tu commences à exagérer, tu interpelles les gens qui ne viennent pas aux activités de la semaine, mais ils ont déjà entendu ça plusieurs fois. Pourquoi continuer à le dire? Je dis, ah bon? Je lui ai dit, je suis pasteur dans cette église, monsieur. C'est par grâce que Dieu m'a établi, et donc j'ai quand même le devoir. Vous aussi, vous avez le devoir de m'interpeller. Chacun a le devoir de m'interpeller. Là où les choses ne marchent pas. C'est ça le rôle d'être dans une communauté de foi. Nous devons nous interpeller les uns et les autres. Même les anciens ont la responsabilité d'interpeller les pasteurs. D'ailleurs, c'est leur responsabilité. Les responsables des ministères, interpellez-nous lorsque les choses vous sentez que ça marche. Parce que c'est ce que la parole dit. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et bien aimé, quand on t'a interpellé, saisis l'occasion. C'est Dieu qui te parle. C'est lui, par amour pour lui, pour toi, qu'il est en train de t'interpeller. D'ailleurs, Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13 dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule. Qu'il n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcissent pas La séduction de quoi?
Du péché.
Si vous voyez le péché en train d'approcher du côté d'un frère, du côté d'une sœur, du côté de votre mari, du côté de votre femme, de votre enfant, il faut l'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le péché, c'est lui d'abord avant qu'il ne conduise à la mort. C'est une vigilance à observer de manière à nous exhorter pour garder la lampe allumée de la sainteté. Il faut aussi exhorter les frères et les sœurs à ne pas abandonner les assemblées. De ne pas abandonner les assemblées. Ne désertons pas les assemblées comme certains n'ont plus l'habitude, mais encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Si un frère t'appelle, une sœur t'appelle et te pose la question, tu étais où aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Il faut dire, ah, ce frère-là, il m'aime beaucoup. Ou une sœur te dit, ça fait deux mardis que je ne te vois pas au séminaire. Ce sont des voies. Je ne te vois plus à l'étude biblique, ce sont des voies. Je ne te vois plus à la cellule, il fait son devoir. Et c'est un ange que le Seigneur a placé à tes côtés pour te dire, ne désertons pas nos assemblées. Alors pour finir, il faut reconnaître que Dieu est comment? C'est un feu dévore. Ça, nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, verset 29. Mais Hébreux chapitre 10, verset 31 dit ceci. Il dit, il est terrible de faire quoi? De tomber aux mains de qui? Des dieux vivants. Les cœurs cherchent les dieux vivants, mais il est aussi terrible de tomber dans les dieux, dans les mains de qui? Des dieux vivants. Si on ne s'est pas maintenu dans la voie, on commet délibérément les péchés. On commet volontairement les péchés. On planifie les péchés. Le matin, on les commet la journée. On les planifie le lundi, on les commet vendredi. On les planifie au début du mois, on les commet au milieu du mois. Si on vit cette vie-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui reste? Dieu deviendra pour toi un feu dévorant. Il y a un moment où Dieu cessera d'être Dieu plein de tendresse, de miséricorde envers toi, parce que tu excelles dans une vie délibérée de commettre le péché. Je crois que nous n'arriverons pas à ça si nous nous laissons avertir par le Seigneur. Il faut nous garder bien aimés de commettre le péché volontairement. Parce qu'en le faisant, nous foulons aux pieds le sang de l'Alliance et nous outrageons l'Esprit Saint. Notre vie doit refléter que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu et faire de notre vie un culte qui honore et qui glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.